France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Ouh là 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 là. Que le carreau du temple est rempli et qu'on est heureux de vous revoir encore une fois ce mois-ci en direct sur la 42e rue de France Musique. Bienvenue, bienvenue. On a choisi de conclure cette saison de concerts en direct avec une œuvre complètement farfelue du 19e siècle qui s'intitule « Vlan dans l'œil ». Alors vous connaissez les opéras bouffes de Jacques Offenbach. Eh bien, son principal concurrent se nommait à l'époque Hervé, nom de scène de Louis-Auguste Florimond Ronger. Offenbach était né en 1838, Hervé était de la génération précédente, né en 1825. Les deux ont commencé par écrire des pièces musicales en un acte, limitées par la législation qui cantonnait les œuvres lyriques à l'opéra comique. Et puis les deux bientôt pourront élargir leur distribution et aboutir à ce qui sera l'ancêtre des opérettes, des pièces en trois actes, riches de styles musicaux et aux livrets fantasques ou cocasses. Hervé compose « Vlan dans l'œil » en 1867. Le titre original, c'était « L'œil crevé ». Alors c'est l'histoire de la fille d'un marquis qui voit son œil faussement perforé par une flèche lors d'un tournoi truqué afin de pouvoir convoler avec celui qu'elle aime. Vlan dans l'œil est à l'affiche du Théâtre du Châtelet à partir de mercredi. Et on est ravis de recevoir aujourd'hui la troupe quasiment au complet, même s'ils ont répété hier jusqu'à 23h et qu'ils retournent juste après l'émission à 15h au Théâtre du Châtelet. Voici le titre qui ouvre cette opéra bouffe d'Hervé. On est dans une petite bourgade de province, un lieu qui ressemble à une fête foraine. Trois jeunes femmes qui évoquent le concours de tir à l'arbalète organisé par le marquis d'Espruc-Pruc-Pruc. Il entend donner sa fille au vainqueur et elle se pâme devant les différents candidats à arbalétrier. Sandrine Sutter, qui porte une barbe dans la comédie musicale. Clémentine Bourgoin, Sophie Calmel et au piano Stéphane Petitjean en direct sur France Musique.
Avec leurs arcs et leurs toquets, la plume en vont les séducteurs. L'entrée nous vont tout droit au cœur. Jules, mon petit amoureux, est bien le plus joli d'entre eux. On le prendrait, mon petit Jules, pour un troubadour de pendule. Qu'ils sont gentils, qu'ils sont coquets, avec leurs arcs et leurs toquets, la plume en vont les séducteurs.
Moi le mien c'est bien différent. De 2 mètres presque il est grand. Ses yeux sont forts, lui s'en épeute. Ils lui font le tour de la tête.
Qu'ils sont gentils, qu'ils sont coquets, avec leurs arcs et leurs toquets, la plume au vent des séducteurs. Leurs traits nous vont tout droit au cœur.
Le tien trop grand, le tien petit, chacun son goût comme elles l'ont dit. Moi comme maîtresse hôtelière, grands et petits font mon affaire.
Qui sont gentils, qui sont coquets, avec leurs arcs et leurs toquets, la plume au vent des séducteurs. Leurs traits nous vont tout droit au cœur, au cœur.
Un premier extrait de Vlan dans l'œil, l'ouverture. Nous allons découvrir maintenant, eh bien, la suite de cette pièce qui sera plusieurs fois montée dans les années 1880. Elle a été créée en 1867, mais après les années 1890, en gros plus rien. Il se trouve que depuis 2013, le Palazzetto Brusane, centre de musique romantique française, intègre le répertoire lyrique léger à sa programmation et en particulier a décidé de monter plusieurs opéras bouffes d'Hervé. Alors ça a commencé par les Chevaliers de la Table Ronde. C'était en coproduction avec la Compagnie des Brigands. Il y a eu ensuite Mamselle Nitouche. Et puis donc cette année, Vlan dans l'œil. trois pièces qui sont mises en scène et bien par le même metteur en scène, Pierre-André Weitz, sous la direction musicale de Christophe Graperon. Et on verra que, en fait, c'est quasiment une troupe qu'a composé Pierre-André Weitz, puisque ce sont les mêmes acteurs qu'on retrouve dans ces trois spectacles, dont donc Vlan dans l'œil sera la dernière production qui sera à l'affiche au Théâtre du Châtelet à partir de mercredi et jusqu'au 23 juin. Dans Vlan dans l'œil, nous allons maintenant rencontrer le marquis. Alors lui craint, c'est lui qui organise donc ce concours d'arbalète. Je crois qu'on peut dire que c'est un homme infâme, comme vous allez l'entendre dans cette chanson, mais pour le moment, il craint surtout pour sa fille. Il a peur qu'elle devienne vieille fille. C'est vrai qu'elle aime beaucoup la menuiserie. Et c'est le moment peut-être le plus attendu en 1867, lorsque le public va au théâtre pour assister à Vlan dans l'œil, parce que c'est le morceau qui deviendra un tube, une chanson, une légende interprétée par Flanant Aubé, la légende de la langouste atmosphérique, Flanant Aubé, accompagné notamment par Lara Neumann dans le rôle de Dindonnette.
À présent, je vais vous chanter la légende de la langouste atmosphérique. C'est une romance en mi bémol qui me va comme un gant. Je commence. Prenez garde. Au départ, ça paye pas de mine. À la fin non plus. Sur les rives de l'Adour, la s'y trouve à son pastour.
Bon, c'est de l'Auvergnat.
Mais non, ignorante, c'est la langue de l'immortel Jasmin, poète mondialement connu. Agen. Doux, naïf, exempt de vice, qui péchasse les escrouvites, ils disent à ce mon bon Dieu, daignez scoutare mon vœu, si tu m'accordas fortuna, jour le jour par la luna, sur les bords de ce canal, j'ou bâtisse. Oh, 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 c'est vrai que c'est un peu grave. Spital.
Eh ben l'hôpital, comme c'est gay.
Écoutez bien cette histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La Torino, la Torino, sautez tous. Trompette et basse, entendez la ritournelle. Ronflez tambour en avant la pastourelle. La Torino, la Torino, good morning.
Tenez pendant la ritournelle. Enchaînez donc sur le deuxième couplet d'Adonnette.
Avec plaisir.
Puis sur le flanc azuré parut un poisson doré qui portait l'herbe magique sur sa croupe magnétique. Il invita le pastour à cueillir l'herbe d'amour. Et notre homme étant en gousse mangea l'herbe et la langouste, oubliant dans son erreur qu'il croquait son bienfaiteur.
Oh, l'ingrat!
Voilà, voilà, cette histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La tourine, la tourine, la santé dans
et là, il y a une danse.
Pour mieux au théâtre.
C'est mieux que la radio, pour le coup.
Non, mais je rêve, Flanant Aubé. De toute façon, vous savez, cher Flanant et cher... que je vous cite tous quand même et toutes, chère Lara Neumann, chère Sandrine Sutter, chère Clémentine Bourgoin et chère Sophie Calmel, que vous êtes filmés par les équipes de France Musique.
Donc vous aurez dû danser.
Ben voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mais ça n'empêche.
Poste une vieille TSF qui ne verront pas ces images.
Merci beaucoup. Et on viendra évidemment vous voir au Théâtre du Châtelet à partir de mercredi. Bonjour Pierre-André Weiss.
Bonjour à tous.
Oh là là, vous m'avez dit que cette chanson avait inspiré une œuvre très importante à Guillaume Apollinaire, non, à Charles Verlaine et même à Lautréamont. Alors là, vous m'avez complètement... Alors que j'étais dans un truc complètement loufoque et farfelu.
Alors il faut dire
ça
que Arthur Rimbaud chantait cette chanson tout le temps. Ça veut bien dire que ça a été vraiment une chanson importante pour lui et ce qui était déjà un peu les prémices du surréalisme.
Elle intervient à quel moment, cette chanson, dans cet opéra bouffe?
1867, voilà.
Oui, mais dans l'histoire, c'est pour présenter un peu le personnage de la du marquis, quoi, c'est ça?
Alors, pour présenter le marquis, c'est tout au début du spectacle, c'est-à-dire que le marquis a décidé donc de donner sa fille comme premier prix à la fête du tir, et puis il se rappelle d'une vieille chanson qui ne veut absolument rien dire, et là Dindonnette par contre, donc qui était chantée par Lara Neumann, se rappelle comme un vieux souvenir, comme dans son inconscient, qu'elle connaissait cette chanson. Alors, est-ce qu'il y aurait un rapport entre le marquis et Dindonnette? Ça, l'histoire nous le dira.
Pierre-André Weitz, on vous connaît parce que vous êtes le décorateur et costumier de toutes les œuvres théâtrales et lyriques d'Olivier Py. C'est très sérieux, Tristan et Isolde, Péléas et Mélisande, Carmen, le soulier de satin. Vous aviez aussi fait la même chose pour L'amour vainqueur, la première opérette d'Olivier Py. C'était présenté à Avignon il y a 2 ans. Vous êtes aussi chanteur lyrique. D'ailleurs, on vous voit dans le rôle du duc d'en face dans cette production. Et puis, il y a 6 ans, vous avez débuté cette collaboration avec le Palazzetto Bruzane autour de Hervé. D'abord, Les Chevaliers de la Table Ronde, ensuite Mamzelle Nitouche. On le connaît pas, Hervé. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet auteur? On connaît plus son petit frère Offenbach.
Alors, c'est plutôt, Hervé, c'est un feu d'artifice. C'est la joie. Donc, ça a été une rencontre absolument magnifique. J'avais l'impression de me reconnaître. C'était quelqu'un qui partait dans tous les sens, qui faisait aussi bien la mise en scène, qui composait la musique, qui faisait les décors, qui faisait les costumes. Et puis, en plus, il chantait. Donc, j'avais l'impression d'être vraiment très proche de lui. Et puis, Hervé, il dit une chose qui est importante. On peut sauver l'humanité par le chant et par la musique.
Et ça, vous vous reconnaissez là-dedans?
Alors, oui.
Ce qui est comme votre compère Olivier Py, qu'on avait reçu il y a un mois et qui nous disait la même chose. Oui. Vous aussi, vous êtes du style à vous réveiller avec de l'opéra le matin et...
Ah, moi c'est bien simple, je me faisais systématiquement sortir de l'école parce que je chantais toujours une chanson avec le prof. Donc oui, je chante toujours, j'ai toujours une mélodie dans la tête, j'ai toujours cette musique, la musique dans la tête.
Pourquoi Offenbach est resté à la postérité et pourquoi Hervé, on le connaît pas? D'ailleurs, je crois que vous me disiez que vous ne le connaissiez pas avant qu'on vous propose ces mises en scène.
C'est très facile à comprendre. Hervé a disparu parce qu'il allait dans plein de directions. Comme je vous ai dit, c'est un feu d'artifice. Et donc, je pense que c'est ce qui fait la beauté du style de Hervé. On peut être aussi bien dramatique et d'un seul coup, on est très, très lyrique. D'ailleurs, pour Vlan dans l'œil, c'est très difficile pour les chanteurs parce que il faut chanter un air, il commence en ténor dramatique, par exemple, et d'un seul coup, il y a une rupture et puis d'un seul coup, ils sont ténor léger et ils chantent une tyrolienne. Vous voyez, c'est vraiment, je dirais, le style des grands boulevards. Donc, c'est fait que de ruptures, des ruptures, bien sûr, dans le jeu, mais surtout dans le chant. Donc il faut une technique vocale absolument hors pair. Et puis en plus, il faut pouvoir chanter, danser, parce que là, vous voyez, ils se retenaient parce qu'ils avaient envie de danser, mais il faut chanter, danser, jouer.
Alors on reçoit aujourd'hui, cher Pierre-André Weitz, la troupe accompagnée au piano par Stéphane Petitjean, mais c'est vrai qu'au Châtelet, il y aura un grand orchestre, l'orchestre Padeloup qui sera dans la fosse. J'avais envie quand même de donner une idée de l'ampleur symphonique de l'œuvre. Du coup, je vous propose d'écouter ensemble un enregistrement, puisque la pièce a été créée au Grand Théâtre Grand Opéra de Bordeaux en janvier dernier, sous la direction de Christophe Grapperon avec l'orchestre de l'Opéra de Bordeaux. Voici les deux principaux personnages, ceux qui ne veulent pas non plus être séparés par ce concours d'arbalète, le champion d'arbalète, Alexandre Ivor et Dindonnette. Ils sont interprétés par Damien Bigourdan et Lara Neumann.
Déjà Je m'en fiche, contre-fiche, nous fuirons ma nini, ma bibiche, mon amour, sans détour, sois prêt au retour. Ah, n'oublie pas, prends tes pas, la paysanne couchée ta matin, va l'audir, je vais revenir, fais tes mal pour partir.
Viens, dans ta joie, je fais de moi, mon amour et mon amour.
Le compliment est charmant. Mais ne flânons pas car il faut que je me pousse du vent. Ah, ah, ah,
ah, ah. À toi. Ils s'en fichent, contre-fichent. Oui, je suis un nini, je m'épiche. Mon amour sans détour. Je serai prête au retour. Je n'oublie pas de prendre des pas. La ficelle que j'ai dans ma clan. Faut le dire pour revenir. Je fais les mal pour partir.
Viens, vite à vous, prends le matin, emporte la moitié d'un gigot, le grand air, on se manque, vous donne un appétit l'enfer. Ah, 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 ah.
N'oublie pas,
prends des mains, la moitié d'un gigot, et surtout le bonbon.
N'oubliez pas, n'oubliez pas, la vaisselle
Le duo de Damien Bigourdan et Lara Neumann dans V'lan dans l'œil avec l'orchestre de l'Opéra de Bordeaux. Parce que V'lan dans l'œil, ça raconte donc l'histoire d'amour, des histoires d'amour complexes. Là, en l'occurrence, Dindonette et Alexandre Ivor s'aiment. Le problème, c'est que lui est champion d'arbalète. Il ne faut pas qu'il remporte le trophée, sinon il va se retrouver marié avec celle qui entre en scène maintenant. Elle s'appelle Fleur de Noblesse. En fait, ce qui va peut-être sauver tout le monde, c'est que Fleur de Noblesse elle-même n'a pas envie de se marier avec Alexandre Ivor. Et le grand avantage qu'elle a, c'est que c'est une grande menuisière et elle va pouvoir créer une cible truquée. Pour le moment, nous allons la rencontrer en pleine action. Elle est interprétée par la soprano Ingrid Perruche, qui a chanté sous la direction de grands chefs comme William Christie, Christophe Rousset, Emmanuel Haïm, à la fois dans du répertoire baroque, dans du Mozart, et qui là incarne, vous allez voir, un sacré garçon manqué. Au piano, Stéphane Petitjean, en direct sur la 42e rue de France Musique. Ingrid Perruche dans le rôle de Fleur de Noblesse. C'était le rondeau de Fleur de Noblesse en direct sur France Musique.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Nous accueillons aussi Christophe Graperon, bonjour.
Bonjour.
Directeur musical de cette production. Vous avez été longtemps directeur musical des Brigands, longtemps directeur musical, vous avez dirigé le chœur des musiciens du Louvre. Vous êtes toujours chef associé du chœur Accentus de Laurence Equilbet, qui vous laisse faire donc ces pitreries, je peux dire ça comme ça.
Mais tout à fait, tout à fait. Et oui, mais parce que c'est une grande tradition française aussi d'allier ce répertoire léger au répertoire, on va dire, savant ou plus sérieux. Et qu'on pense à Delibes, qu'on pense à Bizet, sont des compositeurs qui, dans un temps, ont fait des opérettes en un acte pour justement concevoir leur métier de compositeur d'opéra sérieux qu'on connaît.
Alors, on en parlait avec Pierre-André Weitz. Vous, à votre avis, pourquoi Hervé n'est pas passé à la postérité comme Offenbach, alors qu'en 1867, la même année, Offenbach montait la Grande Duchesse de Gerolstein, que vous connaissez bien, parce que vous avez joué dedans au Théâtre du Châtelet.
J'ai eu cette grande chance, oui, tout à fait. Oui, c'est toujours effectivement une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Hervé, ce compositeur si génial, cet artiste, on pourrait dire plutôt, parce que il n'est pas, comme le disait Pierre-André tout à l'heure, il n'est pas que compositeur. Comment cet artiste si génial, finalement, est oublié par la postérité. Et Pierre-André le disait tout à l'heure, effectivement, comme il part dans toutes directions, on a du mal à le cerner. En fait, c'est un artiste où on l'attend, il est à un endroit où on l'attend jamais. Alors c'est compliqué pour suivre quelqu'un. Il est jamais là où on veut.
Pierre-André Weitz, Christophe Graperon, est-ce qu'on peut dire que c'est le père de l'opérette, Hervé? Pierre-André Weitz.
Oui, disons-le. Oui,
mais pourquoi ?
C'est-à-dire que c'est lui qui invente ce style bien particulier, l'opérette. Et c'est vrai que c'est des œuvres légères où il faut parler, chanter, danser. Oui, c'est lui, ou peut-être le père de la comédie musicale. C'est-à-dire cette chose, être sur scène d'une façon très généreuse pour le public et d'une façon vraiment totale.
Je dirais que c'est l'aspect généreux pour moi est une clé pour comprendre Hervé, c'est-à-dire que ce que je dis souvent aux chanteurs et aux orchestres, c'est que je me fais un film que Hervé vient me voir en me disant écoute, j'ai fait une partition, je me suis beaucoup amusé à l'écrire, je te la donne, amuse-toi avec autant que je pris de plaisir à m'amuser à l'écrire. Et je trouve qu'il y a cette générosité, je trouve, dans l'acte artistique de Hervé.
Alors, je crois que ce que vous venez de dire va illustrer parfaitement l'air que vous m'avez qualifié, Christophe Graperon, de le plus débile d'Hervé. Je suis désolé, Pierre Lebon, qui va l'interpréter dans une minute, qui peut quand même entrer en scène, il n'y a pas de problème. Mais expliquez-moi pourquoi vous me dites que cet air de Jérôme, qui est un gendarme dans cette histoire, qui vient en fait pour... en gros, qu'est-ce qui se passe? Alexandre Ivor a lancé sa flèche. La cible est truquée, elle atterrit dans le visage de Fleur de Noblesse, du coup il est emprisonné et le gendarme veille au grain. Pourquoi c'est l'air le plus débile de Hervé?
Alors, Jérôme, il a pas de chance parce qu'effectivement, musicalement, il a deux airs. Alors le premier, c'est ça s'appelle le flanc, et le flanc et le roulement, et en fait ça ne parle que de flanc et de roulement, et ça pendant deux minutes, donc c'est vrai, c'est effectivement très débile. Et le deuxième air de Jérôme commence de manière très sérieuse, c'est-à-dire qu'on a laissé Jérôme dans un état musical un peu mystérieux, et on le retrouve et il fait comme s'il faisait du Massenet, et hop, il se trompe d'air, alors il reprend et puis finalement il délire totalement. Et ce qu'on a voulu faire avec Pierre, c'est comment un personnage partant de quelque chose de très sérieux, comme on dit actuellement, pète les plombs et va dans un délire que je crois être tout à fait hervien.
Pierre, moi, je trouve que c'est plutôt surréaliste, c'est-à-dire que c'est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre.
Exactement.
Eh bien, voici la démonstration en chant. Bon courage, Pierre Lebon, en direct sur France Musique.
Tristes amours, folles chimères.
Pardon, je vous demande pardon, je me trompe d'air.
Affuyez de mon cœur, folles chimères.
Ah oui, celui-là est bien plus joli.
Plus tard, votre douceur serait amère, et dans ma qualité, jamais de larmes, l'insensibilité sied aux gendarmes. Aussi, plus de chants amoureux à nos refrains gavifs ou valeureux, entonnons donc une voix de tonnerre des chants bachiques sous bien de guerre. Mille canons sans baïonnette, 23 canettes et 100 bouchons. Chantons la gloire, mais après boire le cosier avant le laurier. Car cette chose n'est pas tout rose. Avant de penser le bivouac, gargarisons-nous l'estomac. Si l'on savait les dangers de la guerre, on resterait sous le toit de son père. De la bataille, on rapporte souvent, au lieu d'un crâne, un bonnet en argent. 1000 canons sans baïonnette, 23 canettes et 100 bouchons. Chantons la gloire, mais après boire le cosier avant le laurier. Car cette chose n'est pas tout rose. Avant de penser au bivouac, gargarisons-nous l'estomac. Quand je partis, ma mère me dit « Camille !» Oui, car il faut que je vous dise que je m'appelle Camille dans mes moments oiseux. « Mille !» Dans les combats que ton courage brille, je ne te demande pas de devenir général. Tu pars à pied, reviens au moins à cheval. Et j'ai tenu parole. Je m'étais engagé dans le 3e régiment des patineurs irlandais à la bataille de Moulinsuif. Je force la porte d'une maison déserte. Un laboureur me demande le chemin de Versailles. Je lui prends la tête du revers de ma latte et j'abats par le même coup trois arbres qui se trouvaient derrière lui. Le lendemain, j'étais nommé inspecteur du gaz dans une riche famille péruvienne. Mille 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 canons sans baïonnette, de 23 cacanettes et sans bouchon. Bouche, 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 chantons la gloire, mais après boire le gosier avant le laurier. Papa, maman, car cette chose n'est pas toujours avant de penser le bivouac, gargarisons-nous l'estomac.
Pierre Lebon, qui a bien défendu l'air de Jérôme,
oui,
en direct sur la 42e rue de France Musique. Christophe Grapperon, on va explorer un peu plus avec vous, grâce à vos comédiens, l'œuvre d'Hervé. Vous nous avez proposé de revenir en arrière sur les autres productions du Brousane que vous avez faites avec Pierre-André. Et on commence avec un air extrait des Chevaliers de la Table Ronde, l'histoire d'une femme, on peut le dire également un petit peu infidèle. C'est pas un marquis, là, c'est un duc. Et c'est la duchesse qui avoue qu'elle elle aime bien un peu l'adultère. C'est ce qu'on va entendre dans cet extrait. Pourquoi ce choix? En quoi c'est représentatif d'Hervé?
Oui, parce que dans les années... fin des années 60, 1860, Hervé travaille son style de compositeur et notamment dans Les Chevaliers de la Table Ronde, en 1866, il crée un véritable catalogue de ce que doit faire un compositeur de lyrique léger. Et ce que doit faire un compositeur de musique lyrique légère, c'est de faire de la musique très savante et en même temps de la musique très légère, et de faire les deux. Et dans l'air de Totoche qu'on va entendre, Hervé l'écrit lui-même, en parodiant le style des chanteurs italiens. Et il crée comme ça une espèce de, je dirais, de boursouflure dans l'air pour qui parodie le grand opéra. Et en fait, il adore ça. Pas simplement de parodier pour se moquer, mais pour dire, écoutez, moi je pourrais être Donizetti. Écoutez.
Et alors, qui de mieux que Ingrid Peruche, qui en a chanté du Mozart, hein, dans les opéras, pour reprendre cet air, l'air de Totoche, qui s'intitule « Ah, dans ma poitrine palpitante ». Au piano, Stéphane Petitjean, vous êtes en direct du Carreau du Temple sur la 42e rue de France Musique.
gris. Oh, à chaque instant, à chaque instant, ma rage un cri.
C'est pas pour rien qu'on l'appelait le compositeur toqué Hervé. Hein. Il était vraiment très adroit. Merci Ingrid Perruche. On vous retrouve dans un instant. C'était « Ah, dans ma poitrine palpitante », extrait des Chevaliers de la Table Ronde. Ça, c'était en 1866. C'est sa première grande, son premier grand opéra bouffe en trois actes, qui n'est pas un grand succès. Il y aura ensuite, eh bien, Blanc dans l'œil, L'œil crevé, en 67. Et puis après, il y aura vraiment un grand succès dans les années 1880, Mamselle n'y touche. Et là, ce que vous avez choisi comme extrait, c'est quelque chose qui exprime justement le côté très opérette de Hervé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la guerre est passée par là. Donc, on a dit, écoutez, c'est bien gentil votre irrévérence, mais ça nous conduit à la défaite. Donc maintenant, on veut des opérettes qui chantent davantage la gloire de l'armée, la droiture de la religion, et voici Mademoiselle Nitouche. Évidemment, Hervé contourne tout ça et fait une opérette qui parle et d'un couvent de jeunes filles et en même temps de l'armée. Donc il est pile poil dans les clous de ce qu'on attend d'un compositeur d'opérette dans les années 1880. Mais il en fait à sa sauce, comme souvent les compositeurs quand on leur demande un cahier des charges très précis. En fait, ils en font qu'à leur tête. C'est la grande liberté d'Hervé. Et le numéro qu'on va entendre, c'est a de similaire avec ce que nous venons d'entendre de l'air de Totoche, la grandeur, l'ampleur qu'il donne de facettes à l'interprète, qu'il offre à l'interprète. Mais en même temps, ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus fermé. On est déjà dans un numéro, presque dans une origine de numéro de Kafkons. De café-concert, ou de, comme disait Pierre-André tout à l'heure, de music-hall.
C'est Lara Neumann qui reprend pour nous, pour notre plus grand plaisir, son rôle de Mlle Nitouche. Mlle Nitouche qui est un opéra bouffe quasi autobiographique de Hervé, puisque ça raconte l'histoire d'un organiste de Saint-Eustache qui, en fait, le soir crée des spectacles de music-hall. Voici le moment où Denise de Flavigny, alias Mlle Nitouche, qui adore et qui a découvert le secret de cet organiste, rêve à la fois de faire du music-hall, mais aussi rencontre pour la première fois celui qu'elle aimerait bien épouser. Mais on est dans un couvent de jeunes filles et tout ne peut se faire que par la voix. Ça tombe bien, on a la radio derrière un paravent. Lara Neumann, en direct sur France Musique.
Ce n'est pas une sinécure que l'existence des couvents. Monsieur l'inspecteur, je vous jure que nous n'y perdons pas de temps. Au jour qui naît, c'est vite fait de s'éveiller, de se lever, de s'habiller et de prier. Au réfectoire, en course, au dain, manger et boire du lait, du pain. Puis nous faisons des macarons, des gourmandises, des friandises qui partent dès le matin avant chez Potin. Ces demoiselles sur les modèles font des dentelles pour l'évêché. Et nos fillettes, moins que nous faites, à ce labeur trop recherché, font des layettes pour le Louvre et le bon marché. Puis nous allons à nos leçons. Le professeur d'anglais, d'abord Mr. Wilmot. Nous lisons Walter Scott, Peter Scott et bien d'autres auteurs en Scott. Kenny Worth, Miss Eggerworth, Milton, Addison, Tennyson, Lord Byron, Shakespeare et Miss Corner. Good morning, how do you do, my sister? Oh là là. Puis l'allemand, autre morceau, Peter Schlemihl de Camusot. Schlemihl, Schlegel, Ogel, Vogel, Nimboschlitz, Nitulitz, Schlelitz, Hakim, Darnim, Egrim, Hoffmann, Goethe, Schindler, et ce bon cru Macher. Guten Versammen Sie, meine Schwester. Et puis le soir, on fait de la musique. Au parloir, toutes nous voilà. Je prends ma harpe et je m'applique à jouer un Alléluia. Alléluia, mon cœur joyeux, sois l'aubaine et se veille. Alléluia, mon cœur aux cieux, vole comme l'abeille. Alléluia, candide et pur, mon cœur
Ivresse. Amour.
Ivresse pour toi.
Alléluia, mon cœur joyeux s'ouvre à l'embus.
Lara Neumann, au piano Stéphane Petitjean, et ses talents d'agrément, le rondeau et l'alléluia, extrait de Mamselle Mitouche, un autre opéra bouffe d'Hervé en direct sur France Musique.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Pierre-André Weitz, je crois que c'est une troupe que vous avez constituée à travers ces trois spectacles. Lara Neumann, elle jouait Mamselle Mitouche, elle était dans Les Chevaliers de la Table Ronde. Ingrid Perruche, elle était également dans les deux spectacles. C'est une troupe que vous avez voulu constituer?
Oui, c'est surtout, je dirais, une esthétique de jeu. Vous avez vu, c'est quand même des sacrés clowns. Et ça,
on pourrait lui mettre
encore le faire sur une scène, c'est-à-dire que il y a cette convention de représentation, il faut pouvoir être des grands clowns. Ce sont des grandes chanteuses dramatiques. Mais c'est avant tout des grands lyriques et surtout des grands comiques. Donc elles peuvent changer de registre très très vite.
C'est vrai que vous avez commencé en leur faisant jouer avec un nez de clown pour les répétitions?
Oui, parce que c'était intéressant.
Ça les fait rire.
C'est Lara. C'est leur dire, on va créer une esthétique de jeu, on va essayer de retrouver ce que Hervé voulait, c'est-à-dire cette chose généreuse pour le public. Et puis se dire que les clowns ne sont pas morts et qu'ils pouvaient encore être des clowns et des sacrés clownesses. Alors au départ, c'est vrai qu'elles m'ont un peu regardé. Lara, elle me disait, mais t'es sûr que tu veux que je fasse la princesse? Et puis Ingrid, elle me disait, mais t'es sûr que tu veux que je fasse la comtesse Autoche? Et j'étais sûr de ça parce que elles ont un tel potentiel de drôlerie que vraiment le public était sous le charme. Et il faut avoir cette voix, c'est-à-dire pouvoir avoir une voix large, pouvoir la malmener, parce que vous avez vu, il faut vraiment passer du rire aux larmes. C'est ça, Hervé, on est tout le temps dans le rire et les larmes.
Ingrid Perruche, la première fois que Pierre-André Weitz vous a mis un nez rouge sur le nez, vous lui avez envoyé dans la figure, vous avez réagi comment?
Non, pas du tout.
Ah, mettez votre
oui,
micro.
Oui, avec le micro, ça marche mieux. Pas du tout, non. J'étais impressionnée et curieuse, parce que c'est un univers que je ne connaissais pas ou peu. C'est-à-dire que ce que je connaissais de l'opérette, c'était quelque chose d'un tout petit peu plus traditionnel, peut-être. Et donc, j'ai fait confiance, j'ai choisi de faire confiance, mais en fait j'ai eu raison parce que j'ai appris énormément.
Je racontais votre parcours, vous venez d'un parcours très sérieux, on va parler après avec Lara Neumann, c'est complètement à l'inverse.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Laurent, à ce moment précis de cette émission? Je ne comprends guère. Mais, que je suis née avec un nez rouge, c'est pas complètement faux.
C'est pas vrai, c'est pas faux.
C'est pas complètement faux. D'accord.
Mais juste, Ingrid, qu'est-ce qui vous attirait dans cette proposition de Pierre-André Weitz?
Alors, moi, au tout début, c'était la partition. C'est-à-dire que j'ai lu la partition, ouais, et j'ai vu la Duchesse d'Autoche et je me suis dit, waouh, ça, c'est génial. Et je découvrais totalement Hervé. Et puis ensuite, j'ai rencontré Pierre-André, qui nous a fait travailler. Puis ensuite, j'ai rencontré toute la troupe. Et là, je me suis dit que c'était quand même génial.
Vous n'alliez pas vous fourvoyer.
Non.
Lara Neumann avec un nez rouge, ça vous a fait quoi la première fois?
Écoutez, comme je vous le disais, je suis née avec. Je sais pas comment ça s'est passé. Non, mais c'est, alors, moi, c'est marrant parce qu'avec Ingrid, du coup, on a des parcours différents, mais et oui, on se rejoint tout de même sur ces merveilleux spectacles. C'est-à-dire que moi, je viens du théâtre. Et donc, moi, je ne sais pas lire la partition, en revanche. Donc, je n'ai pas du tout regardé la partition. Et moi, j'ai fait confiance aussi, dans une certaine mesure. Vous voyez, j'étais bien obligée. J'ai dit, bon, bah, ils doivent bien savoir. Ils m'ont entendu chanter quelque part. C'est que ça doit marcher. Mais effectivement, moi, c'est plus, le texte, le théâtre, et puis, le côté, clownesque. Mais le côté clownesque, c'est vrai que c'est Pierre-André qui nous demande de pousser vraiment le curseur très très fort, très très haut. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand vous allez venir, vous verrez que vraiment on n'est pas en demi-teinte, quoi. Mais voilà, on a toute l'expression du personnage doit transparaître.
Mais vous venez du théâtre, mais vous avez une voix sacrément armée, hein. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre?
Eh bien, en fait, je vais vous dire, je me suis formée sur scène grâce au trio qu'on avait monté avec Flanant Aubé et Emmanuel Touchard, qui s'appelle Lucienne et les garçons. Et je peux vous dire que de faire des toutes petites salles, d'être dans les gens, d'être, d'avoir des coulisses, très très petits, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment la meilleure école, je crois.
Et je m'en rappelle, et c'était très très drôle. Et vous êtes déjà très drôle. Merci beaucoup, Ingrid Perruche. Merci beaucoup, Lara Neumann. On va continuer avec Pierre-André Weitz. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un pastiche du malade imaginaire. Je crois que vous avez raison, puisque voici maintenant réunis autour des micros, ils peuvent entrer en scène quatre docteurs. Parce que figurez-vous que Donc, Fleur de Noblesse a reçu une flèche dans l'œil et il va falloir maintenant essayer de l'extirper. Les docteurs se prénomment Sophie Calmel, Clémentine Bourgoin, Antoine Philippot, Séva Actache-Dian. Au piano, Stéphane Petitjean en direct sur France Musique. Habillés en docteur, hein, avec leurs habits, Clémentine Bourgoin, Anthony Sicopoulos, Sophie Calmel, Séva Actache-Dian, au piano, Stéphane Petitjean. Je remercie tout de suite l'équipe technique de France Musique qui est là ce soir, ou plutôt ce jour, il est 13h55, mais il fait nuit, alors voilà, j'ai l'impression qu'il fait déjà la nuit. Pierrick Charles, merci, Jean-Benoît Tétu, Nicolas Depagraf, Sébastien Royer, Titouan Ouex, Léon Jacquier, Ghislain Sanchez, Dimitris Capolan, Sébastien Corriga, Charles Serret, c'est l'équipe technique de France Musique qui vous permet, chers auditeurs, de pouvoir écouter et participer de chez vous à ce concert en direct sur France Musique. Évidemment, Martine Monnier est l'attachée de production de 42e rue et Fabien Fleura, le réalisateur. On referme ce cabaret 42e rue avec le final. On pourrait presque appeler ça l'amour vainqueur, qui est le titre d'une opérette d'Olivier Py. D'ailleurs, je reconnais pas mal d'acteurs de cette opérette sur scène aujourd'hui. Mais non, c'est le final de Vlan dans l'œil. Ils sont sur scène, Lara Neumann, Sandrine Sutter, Clémentine Bourgoin, Sophie Calmel, Flanant Aubé, Ingrid Perruche, Anthony Sicopoulos, Séva Actache-Dian et Pierre Lebon, avec au piano Stéphane Petitjean.
Croyez à mon expérience, je dis qu'il vaut mieux en finir que de prolonger la souffrance. Mieux vaut mourir que de souffrir, sans vouloir vous dire d'injures. Vous avez de tristes figures, j'aperçois quelques peaux fêlées devant être rafistolées. Vous marquis, la fièvre vous gagne, la marquise bat la campagne, le chef a l'air tout ahuri, il faut jouer du bistouri. Croyez à mon expérience, je dis qu'il vaut mieux en finir que de prolonger la souffrance. Mieux vaut mourir que de souffrir. Quant à cette fleur de noblesse, pas d'ordonnance qui la blesse. Nous la guérirons sans scalpel par un moyen plus naturel. L'opération terminée, pour tisane un peu d'hyménée, lui laissant choisir avant tout un petit mari de son goût.
Ah oui, et qu'il rabote bien.
Eh bété, on vous le fera faire exprès.
Croyez à son expérience, il dit qu'il vaut mieux en finir que de prolonger la souffrance. Mieux vaut mourir que de souffrir.
Grand merci à la troupe de Blanc dans l'œil, à découvrir au Théâtre du Châtelet à partir de mercredi. Pour une semaine, les vidéos de ce 42e rue seront à voir très vite sur le site de France Musique. Je vous souhaite un très bon dimanche. Restez avec nous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Marina Chiche.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.